Bonjour, bienvenue sur Radio Méga. Cette fois, j'avais à cœur de vous montrer comment de simples objets connectés peuvent être détournés. On vous en parle maintenant.
Bonjour Cécile.
Bonjour Emmanuel. Oh bah oui, elle avait à cœur. Bah oui, parce qu'on va parler encore de choses de pirates.
C'est des pirates ?
C'est des pirates, mais des pirates gentils et étudiants.
Ah.
Et oui, parce qu'on a vu, hein, effectivement, on a participé, enfin plutôt on n'a pas participé, mais on a été voir les gens qui participaient à un concours spécifique sur la cybersécurité. Mais tout de suite...
Ah, que je ris de me voir cyber en cyber.
Mais tout de suite, passons à l'actualité.
Si je ne me mélange pas, dans mes
alors,
souris.
J'ai donc, souris là. Oui. Alors, il y a eu le concours CEO sur Auric.
Ah non, c'est encore en cours.
Ah.
Le concours est encore en cours. C'est jusqu'à fin décembre. Donc, si vous avez un Auric et vous codez dessus et que vous avez une idée originale de programme, n'hésitez pas, ça peut être sympa.
Et il y a une sortie de React OS 0.4.10.
Et oui, c'est l'OS qui réécrit Windows. Si, il y a des malades qui font ça.
C'est des malades.
Et ouais, et même qu'il permet maintenant de démarrer sur un fichier, sur un système de fichiers ButterFS. BTRFS, ouais.
À tes souhaits.
C'est un système de fichiers qui est sous Linux au départ, mais du coup, bizarrement, Windows ne sait pas faire et ReactOS, lui, sait faire. Donc, c'est plus fonctionnel que Windows.
Complètement, mais c'est facile génial. En même temps. Tu peux être plus facilement réactif que Windows, ça paraît logique.
ReactOS, ouais, d'où le nom.
Et oui. Voilà. Mozilla recrute un ingénieur logiciel pour Thunderbird.
Bah oui, moi j'ai vu plein de bugs sur Thunderbird là, et c'est lent et tout, donc il y a besoin. En fait, c'est un contrat de télétravail d'une quarantaine d'heures par semaine sur 6 mois. Donc connaissances en JavaScript, CSS, HTML, C++, demandez. Si vous avez les compétences, faites-vous plaisir.
Mais t'as pas postulé ?
C'est un peu loin, mais si j'étais moins fatigué, peut-être.
Ça... Alors, l'UFC Que Choisir lance un jeu gratuit sur son site web.
Oh, c'est vrai ?
C'est vrai.
Afin de sensibiliser les internautes à la protection de leurs informations privées.
Ça, c'est une bonne idée pour sensibiliser les gens.
C'est bien.
Et puis, l'association OpenStreetMap France lance un appel aux dons.
Pour le renouvellement de ses serveurs. Et ils sont nombreux, parce que toutes les cartes, en fait, les tuiles des cartes, ça prend de la place. Puis les données aussi.
Et oui.
Donc, on vous mettra... tous les liens pour faire un don sur AAA.fr comme d'habitude.
Et oui, et puis en parlant de dons, je crois que Radio Méga va lancer sa campagne bientôt. C'est demain, spoiler. Ouais. Attaque s'oppose à l'installation d'un nouvel Apple Store.
Aux Champs-Élysées, ouais. Bah oui, parce qu'ils disent que non, c'est pas bien, tout ça. Puis ils payent pas leurs impôts et tout ça, ils ont rien à faire là.
Et puis une équipe de rugby se rend à un hackathon.
Ouais, en fait, ils ont cru que c'était un concours de AK, donc hackathon. Bah oui, hackathon. Si, donc ils ont débarqué et tout, puis voilà.
Génial. L'Ordre National du Mérite pour Gaël Musquet.
Oui, donc c'est un hacker méritant, Ratilas de son surnom sur Twitter. Il a donc été nommé chevalier de l'Ordre du Mérite.
C'est une belle
reconnaissance. Pour toute une communauté de hackers et de makers, en fait, pour la sauvegarde des populations lors des catastrophes, parce qu'il a fondé l'association HAND, Hackers Against Natural Disasters. Vous en avez déjà parlé, qui faisait pas mal de choses, de la cartographie, ils aidaient avec OpenStreetMap, et puis aussi des transmissions radio, parce que quand il n'y a plus rien qui marche, il faut quand même pouvoir discuter avec les secours et tout ça. Ils font beaucoup de choses sympas. Et puis, médaille aussi pour VLC.
Et oui, la France remet une médaille de l'Ordre National du Mérite au fondateur de Vidéolan.
Et oui.
Oh purée.
Voilà, donc ça fait deux hackers libristes médaillés. C'est bien, hein.
Ah oui, comme quoi, hein. Enfin. Il n'y a pas que des plots sur la route, il y a aussi des logiciels pour regarder des vidéos gratuitement.
Ah, toi, tu connais l'icône de VLC.
Oui, elle a circulé un petit peu sur les réseaux sociaux, là, avec un mec qui avait une...
Ouais, les chapeaux.
Un joli chapeau, mais il avait carrément enfoncé sa tête dedans, il avait fait un carré.
Ah oui, non, là. Non, par contre, il y avait au dernier Fosdem, il y avait Coneman, donc il y avait le chapeau, puis il était tout en orange aussi.
Waouh. Wow.
Et puis tous les développeurs VLC avaient le con en peluche. Ouais, c'est marrant.
Ah, c'est trop mignon. Une petite pause musicale là.
Et une petite pause.
Et on se retrouve tout de suite après pour notre sujet du jour sur le hackathon, la cybersécurité. Vous étiez réveillé parce que nous sommes vraiment bien.
Ah oui, avec le café, ça passe bien. Hein.
Oui, Coding in the name of. Oh là là, c'était une parodie de Rains Against the Machine. Donc voilà, qui a été faite à la Susecon 2016. Et puis tout de suite, nous allons effectivement passer à notre sujet du jour, le
CISO.
CISO.
Cyber Security Awareness Week. Yeah.
Yeah, yes. Je sais que tu parles mieux, ton accent est beaucoup mieux que le mien, mais vrai.
Non, mais tu fais des progrès.
C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc ce jour-là? Donc, c'était effectivement une journée particulière, plutôt plusieurs jours, dans lesquels, en fait, les ISAR organisaient, en fait, du 8 au 10 novembre 2018, donc cette année. Un concours spécifique à la cybersécurité, dans lequel en fait plusieurs participants ont pu proposer leur projet.
Alors c'est même plus grand que ça, parce qu'en fait ça se passe à plusieurs endroits.
En même temps,
on vous a annoncé l'événement, on vous l'a dit, c'est avec une université américaine entre autres, donc c'est sur plusieurs lieux. Et là en fait c'était les finales, donc il y avait tous les finalistes de différentes universités qui venaient à la CISAR pour s'affronter, entre autres, sur des lampes connectées.
Eh oui. Alors, effectivement, il y avait Applied Research, un concours dédié aux doctorants qui, effectivement, présentaient leurs travaux sur la cybersécurité. Il y avait effectivement l'Embedded Security Challenge, qui était justement en rapport avec les ampoules connectées.
Voilà, c'est l'embarqué. Embedded, en anglais, c'est l'embarqué.
Et aussi Capture the Flag, où des élèves, des étudiants se sont mis à concourir pour justement attraper un flag, donc aller rentrer dans un système et aller casser le code pour...
Et voilà. Comme un manège, il faut attraper le fanon.
Voilà, c'est pas ça.
C'est moi qui l'ai.
Attraper les pam-pam. Donc voilà, Et donc, ça, tout se passait, effectivement, tout était organisé à Les Isards. Donc, nous avons été faire un tour avec Memuman et nous avons recueilli un petit reportage audio que vous allez pouvoir écouter. Alors, je suis en compagnie d'un des organisateurs de l'événement. Donc, voilà, il fait partie de la team. Donc, présente-nous un petit peu l'événement.
Alors, ici, on est à Les Isards. On organise le CISO. C'est une compétition internationale de cybersécurité. Et donc moi je représente le club de cybersécurité de l'école. Voilà, donc on est un club de cybersécurité dans l'école et notre travail consiste à faire de la sensibilisation auprès des élèves et sensibiliser aux problématiques de la cybersécurité. C'est quelque chose qui se fait vraiment en même temps qu'on conçoit le produit, on pense à la cybersécurité. Et donc c'est important d'avoir toujours en arrière-plan cette pensée, ce souci toujours de se demander comment est-ce qu'on pourrait détourner ce qui a été fait pour l'exploiter à d'autres fins que celles qui ont été prévues sur le produit.
Alors justement, pour sensibiliser ce sujet, il y a eu différentes thématiques qui ont été développées.
Alors nous, ici, on fait une sensibilisation avec ce qui est phishing. On montre à quel point c'est facile de copier un site web pour qu'il soit identique à un site web légitime, comme Facebook.
Je voulais savoir, par rapport au club de cybersécurité, combien de temps ça prend pour organiser ce genre d'événement ?
Alors moi, je n'ai pas vraiment été dans l'organisation, mais c'est quelque chose... ça fait depuis la rentrée qu'on y travaille. Il y a beaucoup de choses à faire, en particulier sur tout ce qui est infrastructure. Il y a une énorme infrastructure matérielle à installer puisqu'il faut que les compétiteurs soient dans un environnement, il faut que le réseau de l'école puisse tenir puisqu'on a des compétiteurs qui travaillent en cybersécurité, donc il faut bien cloisonner les choses, pas que le réseau de l'école se mélange avec le réseau qu'ils utilisent.
Sinon ils vont finir par hacker les données de Les Isards.
Non, je pense pas qu'ils le veuillent, ils sont très occupés par la compétition, c'est très sérieux. En revanche, il peut y avoir parfois des accidents quand on cherche à accéder à quelque chose, il peut y avoir des dommages collatéraux, disons, quand on cherche à des failles de sécurité dans un système.
Alors nous sommes en compagnie d'une équipe qui vient de l'IUT de Valence, c'est
ouais,
ça,
c'est ça.
Et donc vous concourez sur l'ampoule connectée.
Et le but de ce concours, c'était d'exfiltrer des données d'un réseau d'entreprise qui a été infecté par un malware, mais qui n'était pas connecté à Internet. Donc il n'y avait aucun moyen d'exfiltrer ces données directement par cette... voilà, du coup, il fallait qu'on trouve un moyen de faire des attaques de side channel, ça s'appelle. Et nous, on a choisi d'utiliser la lumière comme moyen de transmission de données, en faisant clignoter la lampe et en réceptionnant ces clignotements de l'extérieur. Par exemple, on pourrait imaginer un scénario où l'attaquant serait positionné sur le parking de l'entreprise et avec une caméra, il réceptionnerait les clignotements. On pourrait aussi imaginer par exemple une caméra qui est connectée, vu qu'il y en a de plus en plus qui a été piratée et que via ce vecteur-là, on aurait pu réceptionner les clignotements de cette lampe.
D'accord. Et donc là, vous avez, je vois que vous avez la lampe sur un coin de la table et puis de l'autre côté, donc je vois un Arduino ou quelque chose qui ressemble.
On a utilisé un Arduino en fait parce qu'on connaissait un peu ce système et que c'était pas cher parce que aussi dans les critères pour la note il y avait aussi le critère de prix. Du coup on a vraiment voulu faire le moins cher possible, on a utilisé un Arduino et une lentille optique pour concentrer le faisceau lumineux sur un phototransistor en fait. Et ensuite l'Arduino va réceptionner ces signaux via une communication série en fait.
Et donc après l'Arduino il doit devoir décoder le signal de la lampe.
Voilà, c'est ça, et après on peut réceptionner le signal, nous on le réceptionne sur un ordinateur mais on aurait pu aussi mettre un écran LCD pour encore baisser le prix. Après, on peut le réceptionner sur ce qu'on veut, en fait, même un smartphone.
Et donc, ça fonctionne ici
On a essayé, ça marche très bien. Après, il y a quelques petites erreurs de synchronisation, parce que, en fait, des fois, les temps bits sont assez aléatoires. On a fixé 100 millisecondes, mais des fois, on passe à 90 ou 120, donc ça décale un peu, et on arrive à des caractères qui sont différents. Après, on a mis en place des méthodes pour essayer de pallier à ce problème-là, en échantillonnant chaque temps bit, par exemple, 11 fois. Donc un nombre impair, et on compte la majorité de 1 ou de 0, et on prend cette majorité-là comme étant l'état du bit actuel. Et on fait ça pour chaque bit. On a aussi ajouté un contrôle de parité qui nous permet de savoir s'il y a une erreur ou pas. Malheureusement, si jamais il y a plus d'un bit d'erreur, la parité ne peut pas être corrigée, et donc on se retrouve quand même avec des erreurs par programme.
Ouais, ça suffit pas. Après, il faut d'autres méthodes un peu plus compliquées.
Nous sommes en compagnie de Romain qui chapeaute l'équipe. Donc, présente-nous un petit peu ton rôle par rapport à cette compétition.
Alors, je suis enseignant à l'IUT de Valence. En deuxième année à l'IUT, les étudiants sont amenés à réaliser un projet tutoré. Donc, j'ai été invité à participer au concours de cybersécurité. Et donc le groupe d'étudiants a travaillé sur le sujet. Ce que je trouvais intéressant avec le concours de cette année, c'est qu'ils sont amenés à travailler sur une lampe communicante. Donc on a un objet de la vie de tous les jours, et des objets communicants comme ça, il va y en avoir de plus en plus, et montrer que finalement, ces objets-là présentent un certain nombre de failles qu'on peut exploiter et qu'on peut les détourner de leur usage premier. Et des objets comme ça, il va y en avoir de plus en plus. Donc ça pose aussi la question des menaces, on est susceptible d'en avoir de plus en plus.
Et du contrôle qu'on a dessus, parce que là, c'est même pas une faille, en fait. On utilise l'objet pour se... Enfin, on casse pas la sécurité de l'objet, on lui envoie juste des commandes valides qui l'interprètent. C'est juste qu'on fait qu'une été peut-être un peu plus souvent que d'habitude, en fait.
Tout à fait, c'est vraiment pour ça que je parle d'un usage qui est détourné, effectivement, la remarque est bonne. Sans parler du fait que cet objet-là, on ne l'a pas piraté. Mais on pourrait aussi envisager, ça a déjà été fait sur Internet, les étudiants ont trouvé un étudiant américain qui avait réussi à démonter l'objet, à comprendre comment il fonctionnait et à exploiter et à détourner son utilisation. Et là, c'est vraiment un piratage. Voilà.
Alors, quelle équipe êtes-vous ?
Donc, nous, on est l'équipe GSecOp Team. Donc, en fait, nous, ce qu'on propose, c'est de transmettre la donnée au travers la lumière qui est émise par le bulbe. Donc l'idée, c'est d'avoir un capteur RGB qui se trouve juste ici. Donc on va acquérir les trois canaux, le R, le G et le B, rouge, vert, bleu. Et puis en fait, chaque caractère est codé selon un groupe RGB. Et donc derrière, on vient acquérir ce signal, on vient le traiter au sein de l'Arduino, et puis on remonte l'information au niveau du PC. Donc ça, c'est pour ma partie, c'est la partie réception. Et mon collègue a travaillé sur la partie émission. Donc comment faire en sorte d'émettre la couleur avec le bulbe. Je te laisse parler peut-être.
Donc ici, on a le Raspberry Pi donc, qui a un port, qui peut communiquer en Bluetooth avec le bulbe. Donc le Raspberry va se connecter en Bluetooth sur le bulbe, va émettre une certaine séquence pour signaler à l'Arduino qu'il est en train d'envoyer une séquence. Donc ça, c'est synchronisé entre les deux, donc c'est rouge, vert, bleu émis très vite pour démarrer la séquence. Ensuite, il y a une phase de calibration parce que nous sommes sur un capteur RGB donc qui est sensible à l'environnement. Donc on a besoin de calibrer pour avoir les gains, pour capter les bonnes, pour capter l'environnement qui est autour. Suite à cette calibration, le bulbe envoie le nombre de caractères qui va être émis pour savoir si à la suite l'Arduino a bien réussi à capturer tous les caractères ou s'il lui en manque. Et ensuite il envoie la séquence. Donc en effet, comme a dit Cédric, dans le Raspberry, il y a une table de caractères. Donc on a trois canaux, rouge, vert, bleu. Sur chacun des canaux, on a codé 10 caractères, donc les 26 de l'alphabet plus 4 caractères spéciaux, arrobase, point exclamation, point et virgule. On vient détourner la fonction de l'objet, donc qui est d'émettre une lumière, et on vient émettre cette lumière donc à une fréquence qui, si on est vraiment dans le firmware de la lampe, permet d'émettre en dessous de la persistance rétinienne, donc sans que l'utilisateur puisse voir qu'en fait une séquence est transmise.
Et du coup, alors vous avez touché au firmware de la lampe, vous l'avez modifié ?
Nous, non, parce qu'une des conditions du concours, c'était que ça soit très répétable et discret. Donc on a pris le parti de regarder ce qui se passe sur Internet. Sur Internet, on a vu qu'il y avait des bibliothèques qui étaient développées pour cet objet IoT, pour beaucoup d'objets IoT, notamment sur les bulbes, on trouve très facilement des bibliothèques sur Internet. Donc en fait, on a pris le parti de la généraliser en fait l'attaque. En fait, notre code peut s'implémenter à n'importe quel type de lampe à partir du moment où on a la bibliothèque sur Internet. Et donc ça rend très, très répétable ce processus d'attaque.
Donc avec une lampe sortie de l'étagère, quoi. Il n'y a pas besoin de la modifier, on branche et ça marche.
Exactement.
C'est du plug and play.
Exactement. Ceci dit, on peut aussi retomber sur d'autres travaux qui sont présentés à l'ESC Challenge, où en fait si on a une lampe qui n'est pas, où la bibliothèque n'est pas disponible sur internet, en effet il faut faire un peu de reverse engineering pour arriver à avoir cette bibliothèque, à se connecter dessus, et à ce compte là après on a de nouveau une attaque sur étagère.
Et le reverse engineering, c'est la rétro-ingénierie. Donc essayez de comprendre comment ça marche.
Et voilà, et donc ils ont participé à leur concours pour effectivement présenter celui qui aura le meilleur projet. Et la récompense est arrivée le dimanche matin, où effectivement ils ont été reçus par la suite à la mairie de Valence pour recevoir leur récompense.
Tu veux répondre à ton téléphone?
Non, je ne veux pas le répondre, mon téléphone. Je ne vais pas faire du reverse engineering pour deviner qui c'est qui m'a laissé un message. Bref, voilà, c'était vraiment intéressant de voir un petit peu de plus près ce genre de concours, parce qu'effectivement, il y a le côté intéressant de savoir que oui, nos objets connectés sont hackables.
Bah, on vous en parle suffisamment souvent, effectivement.
Très facilement. Il est intéressant de savoir aussi qu'au niveau de la législation, l'Europe devrait bouger pour obliger les fabricants à protéger davantage leurs objets connectés. Parce que, mine de rien, quand tu sais que les bibliothèques sont disponibles sur Internet,
bah oui.
Ça peut être disponible pour tout le monde.
Bah oui.
Voilà, donc une belle initiative sur laquelle on a eu plaisir à pouvoir voir de nos yeux les participants.
Ouais, et puis c'est bien de voir que bah, les Césars aussi, ils s'intéressent à la sécurité. C'est vrai qu'à mon époque, c'était plutôt Telnet, sans chiffrement, tout ça.
Ça a vachement
mais
évolué.
Mais c'est
bien,
hein. Ça a changé, ouais, ouais. Et puis même les étudiants s'impliquent. Hein, il y a le Kraken, donc c'est l'assaut des étudiants de les Césars pour la cybersécurité qui s'occupe de ça. On vous a passé une petite interview, hein, et ben c'est bien, voilà.
Très bien, eh bien, nous allons faire une petite pause musicale. Nous nous retrouvons tout de suite après pour l'agenda. Un petit peu de chiptune, ça faisait un peu du bien, ça manquait un petit peu, donc c'était No Banks Long Bass Lou. Donc c'est une musique issue d'une démo qui a été primée seconde place à la
Silly Venture,
Silly Venture, yeah. 2018, qui est en Pologne il y a quelques semaines. Passons à l'agenda.
Alors qu'est-ce qu'on a? Alors rappelons hein, que comme d'habitude, hein, si vous écoutez le samedi, en fait, c'est trop tard, c'est l'agenda de la semaine écoulée. Donc, il y a le Vintage Computer Festival. Alors ça, c'est à Zurich, c'est un peu loin. Mais du coup, si vous êtes à Zurich ce week-end, bah, courez-y, le problème est vraiment pas mal. Il y a du PDP-11, enfin, des choses, enfin, c'est de l'archéologie presque.
Et puis, l'atelier Linux et logiciel libre au CERMOSEM le 29 novembre.
Donc ça, c'est en Ardèche. Donc c'est un atelier,
c'est un peu plus près.
Ouais, Libère ton ordi avec l'association Ardèche Libre. Pour passer à GNU Linux, bah là, faut amener son PC. Donc c'est le jeudi 29 novembre de 18h30 à 20h30 au Sermozem, salle Perco. Le Pradel à Mirabel en Ardèche. C'est pas Mirabel et Blacon, hein, c'est, non, c'est bien Mirabel en Ardèche.
Et puis la cookies party.
Oui, la cookies party, on vous en a déjà parlé, c'est du 30 novembre au 1er décembre à Folie Numérique, mais c'est à Paris, c'est un peu plus loin.
Un peu plus loin, mais voilà, c'est pas inaccessible non plus. Et puis nous allons frotter la boule de cristal. Alors, qu'as-tu vu aujourd'hui cette semaine?
Qu'est-ce que j'ai vu? Alors, old school. Ah, quand j'étais jeune, je jouais avec les gros carrés sprites.
Technophile, le nuque. Il lui manquera toujours un truc.
Bah oui, le nuque. Hacker, cela fait longtemps que je ne suis plus sur ma propre session.
Oh, oh, oh. Nerd, maman, c'est quoi le mot de passe du Wi-Fi? Range ta chambre d'abord.
30 minutes plus tard.
C'est fait. Alors, c'est quoi le mot de passe? Range ta chambre d'abord. En minuscule, sans espace.
Musicien, il est midi, j'ai faim, j'ai la note.
Microsoft. Je suis passé un coup de vent. J'ai vu que mon OS était tout bleu.
Bzed.
Eh bien, merci, chers amis auditeurs. Nous avons écouté jusqu'au bout. La semaine prochaine, retrouvez-nous pour un nouvel opus de Underscore où on vous parlera du festival Micromusique qui s'est passé à Romans.
Ouais.
À très bientôt. Bye bye.
Bye bye.